Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h.
Tim Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez les amis, 18h04, bonsoir, ravi de vous accueillir, vous êtes les bienvenus dans Team Dugas jusqu'à 20h sur RMC, nous allons nous régaler à parler, à débattre au football avec Jean-Louis Tour qui est parmi nous ce soir. Bonsoir mon Jean-Louis.
Salut Dugas, salut tout le monde.
Bienvenue l'ami.
Ça va?
Ouais, nickel, super bien, très bon. très bien. Impeccable. Nous accueillons Jérôme Rotten également, bonsoir Jérôme.
Salut Dugas, salut à tous.
Salut Jérôme.
Ça va mon poulet?
Ça va, en forme.
Dugas, Jérôme te manquait hein.
Exactement, beaucoup.
Pourquoi? T'arrêtes pas de le réclamer là, tu dis qu'on a signé dans l'émission depuis.
Non, mais j'ai eu Zizou aussi, il m'a dit on le voit pas assez Jérôme, c'est dans le type du gars,
c'est
tout
vrai
ça. Ouais.
C'est normal. Hein.
Alors je me suis dit, je me suis posé la question, est-ce que t'es pas un peu en colère, un peu vexé? Parce que l'année prochaine, tu vas quand même te retrouver le remplaçant de Bruno et le remplaçant de Jean-Louis.
Il est fou, lui. Ouais, non, mais c'est ça, c'est que n'importe quoi.
C'est vrai que tu peux le prendre comme ça.
Mais non,
c'est vrai.
C'est vrai. Non, mais t'as raison. Après, ça fait partie de. Tu sais, nous, on a cette faculté, les anciens joueurs. Oui. C'est, tu tranches, ça tranche. Donc, c'est un choix. C'est un choix d'antenne. Tant mieux pour Momo.
Il répond sérieusement. Il est fou, lui.
Après, il y a forcément des réflexions, du gars.
C'est que je pense qu'il est un peu sérieux. Il croit vraiment ce qu'il dit, là, Jérôme.
Non, mais si tu devais les comparer à un coéquipier à toi, si t'as un ex-coéquipier à toi, t'as Morientes ou Pauleta, tu te dis, bon, allez, pourquoi pas. Mais là, tu dois les comparer à qui, tous les deux? Ils vont jouer titulaire à ta place.
J'aime bien Morientes et Pauleta, moi.
Là, franchement, oui, mais... c'est Elbuic et.
Et Digard.
Elbuic et Didier Digard,
ouais. Voilà, bien sûr.
Ah ouais.
Ça a du potentiel.
Oui, ouais, mais ça peut tenir une équipe.
Attention,
quand même.
Enfin,
ça travaille, quoi.
Mais ouais. ça a du mal à confirmer, quoi. Donc, je leur souhaite pas. Hein.
Ouais, tu penses qu'à bout d'un moment, ça va trébucher, tu penses, à un moment.
Bon, très bien.
Écoute,
Je pense que c'est le moment d'accueillir Mohamed Bouafti.
Bonsoir, messieurs. Je sais pas si je suis David Elbuic ou Didier Digard.
Hein, tu préfères qui, toi? Non, par rapport à ton style
physique,
de jeu.
Au niveau du physique, je préfère Digard.
Ouais, enfin bon, on va. Oui, ouais.
La technique, c'est la créativité, c'est plus David Elbuic.
Ouais, la technique, c'est plutôt Elbuic, donc c'est plutôt moi. Ouais. Ah, t'es gardien, Jean-Louis. Moi, je suis un joueur, c'est vrai.
C'est vrai que j'aurais pu citer plutôt en Jean-Louis, j'aurais plus cité Biancarelli. Ouais.
Voilà. Très bien.
Grosse carrière.
Je remercie Dugas pour cette introduction.
Non, mais
j'ai
mais attends, moi j'avais misé beaucoup d'espoir en Jérôme. Pour moi, c'était la relève, c'est le poulain.
C'est toujours la relève.
C'est l'héritier.
Mais
le football, ce que je veux dire, c'est que le football est parfois cruel. Voilà, t'as des jeunes talentueux qui
passent. Mais
n'importe
quoi.
Mais arrête,
Jérôme, il va le croire. C'est ridicule.
Mais il va le croire. C'est la vérité, c'est ce qui s'est passé. Mais après,
non, pas du tout. C'est pas.
Jérôme sera là avec nous à la rentrée. On est tous une grande famille, une grande équipe, et Jérôme aura son rôle très important comme toutes les émissions.
On en a parlé la semaine dernière.
Intéressant de faire ça à l'antenne.
Un repas, Dugas. Donc, on sait très bien ce qu'on pense, mais on va pas tout dire non plus, quoi.
Quel repas?
On s'organise, nous, les consultants, on essaye.
Ah bon?
T'es avec Zizou et Patrice Evra.
Toi, t'as mangé avec d'autres consultants, oui. Ouais.
Zizou, sûr. Patrice Evra, Didier.
Il y avait Zizou, Pat Evra et Didier qui étaient là. Ouais. Ils sont arrivés un peu en retard, mais ça s'est bien passé.
Bon, très bien. Évidemment, on va arrêter cette conversation qui n'a ni queue ni tête. Hein. Évidemment, tout ça, c'est faux.
Est-ce qu'on a le droit de se chambrer?
Jérôme sera là à la rentrée pour Rotten Régal.
Ah oui, ça, le vendredi. Ça, je serai là, ça, c'est sûr.
Dugas ne travaillera plus à la rentrée et il sera plus là au golf. Voilà. Et avec Mohamed, on t'accueillera avec plaisir, Jérôme, dans Top of the Foot.
On t'accueillera
tous les soirs.
On t'accueillera, c'est horrible de dire ça.
Et on te mettra en valeur comme il se doit, comme à chaque fois.
Non, c'est lui qui va vous mettre en valeur. Non, mais attendez, vous avez craqué ou quoi?
Non, mais nous, on est là pour mettre en valeur les gens avec qui on bosse.
Dugas, c'est lui la star, c'est Jérôme.
Et qu'est-ce que j'ai fait depuis 4 ans? J'ai mis en valeur.
On t'accueillera, t'as pas honte, non, de me dire on t'accueillera.
Si tu as ton invitation, tu
pourras rentrer. Moi, je suis content d'avoir mis la merde.
Mais t'inquiète pas. Ça va, j'ai déménagé. J'ai déménagé, je risque pas de la recevoir.
Non, t'inquiète pas, on te retrouvera. Bon, allez, on y va.
Allez, c'est parti, vas-y.
Ce soir, on va revenir sur la carrière d'un attaquant marquant du Milan lors de la saison 96-97. Ce n'est pas Christophe Dugarry, c'est Roberto Baggio. Ouais. On reviendra sur sa carrière en détail.
J'ai adoré ce joueur.
Et oui, il y a plein de moments marquants en plus dans cette carrière. Ouais. Ballon d'or. Carrière peut-être pas à la hauteur de son talent. On y reviendra, on se posera la question donc à 19h. À 18h30, on sera avec un ancien Bordelais d'1m90 qui n'a plus de cheveux et qui a rendu hommage à Pierrot Labatte. Et à nouveau, ce n'est pas toi, du gars. On sera avec Paul Bernardoni, donc qui quitte Nîmes, où il était prêté par Bordeaux depuis deux saisons.
Paul, il fait 1m90 ?
Oui, exactement.
Ah, j'aurais pas pensé, tu vois.
Ah oui.
Et, ouais, par contre, son âge, par contre, on est sûr de rien, son âge.
Oui, c'est vrai qu'il fait un peu plus vieux, mais bon. On n'a rien contre les gens qui font plus vieux que leur âge dans le film du gars.
Non.
Donc, il sera notre invité à 18h30. Avant de débattre autour du profil atypique de Villas-Boas dans une seconde et de son plan de carrière, l'actu de la journée, c'est les infos RMC Sport de Mohamed, donc sur la reprise de la Ligue des Champions. On a quelques infos pour le mois d'août.
Oui, il y a un plan qui se dégage, messieurs, pour la reprise de la Champions League. Une Champions League qui devrait se tenir du 3 au 23 août dans quelques semaines. Cela devrait être validé la semaine prochaine lors d'un comité exécutif de l'UEFA qui va se tenir le 17 juin. Donc c'est une grosse tendance du 3 au 23 août avec ce fameux match entre la Juve et l'Olympique Lyonnais entre le 4 et le 7 ou 8 août. Et ensuite l'entrée du PSG à partir du 12 août. Et la surprise et la grosse tendance du gars Jérôme, c'est que ce serait un Final 8, donc des matchs de quart de finale et de demi-finale en un match simplement, pas de match aller-retour. Cela devrait se jouer
Sur un même lieu.
Oui, sur un même lieu. À Lisbonne, c'est la tendance. Il y a une solution de repli qui est du côté de Francfort en Allemagne. Et dans ce fameux comité exécutif de la semaine prochaine, on va aussi discuter des supporters. Est-ce qu'il faut autoriser les supporters dans le stade à Lisbonne ou à Francfort? Et petite information qui confirme ces tendances-là, c'est que la Ligue de football professionnel et la Ligue 1 devraient mettre les matchs de la première journée, donc le week-end du 21, 22, 23 août, à des horaires différents pour respecter les matchs de championnat. Donc à 19h et non pas à 21h. Finale de Ligue Europa le vendredi 21 à 21h et finale de Ligue des Champions le dimanche 23 à 21h.
Quelle est votre première réaction? Vous trouvez ça dommage qu'on passe par un Final 8 donc et que la compétition ne soit plus la même qu'avant avec des matchs secs en quart et demi?
Bon, est-ce que tu avais le choix, mon Jean-Louis? Non, bon, ça va faire une belle compète. Voilà, Final 8, ça va être passionnant, ça va être intéressant. Voilà, ça restera des belles équipes. Bon, voilà, fallait faire quelque chose. C'est la moins mauvaise solution. C'est sûr que de toute façon,
ça va pas dévaluer la victoire du futur vainqueur.
Et le futur vainqueur, ben si, bien sûr que le futur vainqueur, ça sera moins prestigieux, mais ça restera quand même une belle ligne dans le palmarès. Mais ça sera forcément moins prestigieux. Et oui, et ça sera, après, il va falloir s'adapter aussi sur un match. Comment ça va se jouer? Ça sera peut-être un peu plus spectaculaire. Il y aura moins de calculs. Non, c'est pas forcément une mauvaise idée. Hein. Moi, ça me choque pas.
Ça pense quoi, Jérôme?
Écoute, on s'y attendait plus ou moins. Alors, on avait entendu parler d'un Final Four plutôt au départ. Après, en effet, comme le dit Mohamed, c'est un Final 8. Le problème à ça, c'est que. Ouais, t'as vu, c'est pas mal. Je dois être bilingue comme toi, en fait. Voilà, parce que ma période écossaise a été comme la tienne en Angleterre, pareil. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai du mal à saisir. Je comprends du gars ce qu'il dit par rapport à ce qu'on a vécu et ce qu'on vit encore, parce que il existe encore ce virus. C'est pas réglé partout, mais on va dans le bon sens quand même. Et vu qu'on va dans le bon sens, je me dis que pourquoi pas avoir essayé d'avoir gardé plus ou moins la formule qui était celle prévue, quoi, avec des matchs. Alors moi, on me dit c'est en termes de calendrier, c'est compliqué de faire des matchs aller-retour, de passer d'un pays à l'autre. Peut-être que toutes les frontières ne permettront pas ça au mois d'août. Et encore, ça, j'en doute, parce que apparemment, on parle même dans certains pays et même en France de remettre du public fin juillet dans les stades. Donc, je me dis.
Disons que si tu veux faire ça, il faut commencer vraiment mi-juillet, quoi. Tu vois, enfin.
Ouais, il y avait quelque chose à faire de. Il y avait quelque chose au moins à faire pour le quart de finale. Après, si tu veux organiser une finale à 4 sur un lieu comme à Lisbonne, là, avant c'était Istanbul, maintenant c'est Lisbonne ou l'Allemagne, pourquoi pas? Mais à 8, ça me dérange un peu.
Ça fait une formule Coupe du Monde, une formule Championnat d'Europe, de la grosse compétition internationale. Bon.
Moi, je suis pas sûr qu'il y ait plus de spectacle, comme tu l'as dit, du gars.
Non, tu crois pas?
Sur un match sec, justement, tout le monde va avoir peur de. Non? Les matchs de Coupe du Monde, les matchs à élimination directe, c'est pas les plus spectaculaires à ce moment-là.
Après, elle sera un peu. Bah, ce sera un quart de finale. À partir de tous les quarts de finale, c'est en général pas mal. Mais après, elle sera un peu dévaluée aussi, cette Ligue des Champions. Il y a peut-être des équipes qui vont se lâcher en se disant, bon, voilà, elle est un peu tronquée, cette Ligue des Champions.
Peut-être.
Je sais pas.
Non, mais ça peut rendre des matchs un peu fous, hein. On est d'accord. En plus, je dis pas que les équipes vont arriver à 50% de leurs moyens physiques, mais elles seront pas à 100% pour la plupart.
Ouais, mais imagine l'équipe qui doit affronter le Paris Saint-Germain ou Lyon alors, en espérant qu'ils se qualifient. Ouais. Il faudra mettre l'intensité parce que tu sauras que le Paris Saint-Germain ou Lyon, ils n'ont pas eu de super préparation, ils ne sont pas au top physiquement. Ça va dépendre des niveaux de forme des uns et des autres. Et puis,
c'est même plutôt une bonne nouvelle pour le PSG et aussi pour Lyon. Ouais. Parce que quand on parle de manque de rythme, sur un match, c'est beaucoup plus facile à gérer que sur deux matchs.
C'est clair.
Donc, Paris n'a jamais été aussi proche de gagner la Champions League. En trois matchs, le PSG peut remporter la Champions League.
Problème, Momo, là-dessus, c'est que, en effet, moi, je te rejoins sur le premier match parce que tu peux être surprenant. Même toi, des fois, tu te surprends après une préparation où t'as eu très peu de matchs à faire un match, un très grand match.
Il n'y a que Jean-Luc qui ne surprend jamais.
Le problème, c'est de remettre ça 3-4 jours après pour le PSG, je le souhaite, qu'ils gagnent déjà ce quart de finale et qu'ils arrivent en demi-finale. Mais le quart de finale, la demi, ça arrivera 4 jours après, on est d'accord.
Ça
va aller vite, ouais.
Du 12 au 23. Le PSG est attendu le 12. Donc 12, 13, 14, 15, il y aura les demi. Et après, il y aura. Non, les quarts, pardon. Et après, il y a la demi qui va arriver le 17 ou le week-end du 17-18. Et après, on va jouer la finale le 23.
La difficulté dans ces cas-là, quand t'es pas prêt à 100%, c'est d'enchaîner. Bien sûr, le match entre les deux, c'est le plus dur. Hein. Pour le PSG, quoi.
Jean-Michel
Aulas. Pour Lyon, hein, parce que Lyon peut se qualifier.
Jean-Michel Aulas a annoncé l'organisation de tournois au mois de juillet lors de la conférence de presse de présentation de Kadewere, la recrue, disant
un beau tournoi de sixte avec
8 équipes réparties en deux groupes. On va faire ça garçon-fille, tout ça au Groupama Stadium. Donc, il est prêt à s'organiser.
Il a dit ça dans le sens où il essaye de confirmer ce tournoi avec le PSG. Du gars, quand on parlait de la difficulté des matchs amicaux, ils sont en plein dedans. Ils n'arrivent pas à trouver d'équipe pour jouer ce fameux tournoi. Il manque encore 6 équipes pour disputer ce tournoi. La semaine du 25 juillet et c'est très 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 compliqué à organiser.
Bon, voilà pour ce calendrier et le mois de et l'été qui arrive. Oui, Nugat, tu voulais ajouter un mot?
Non, mais si tu te tapes le PSG sur des matchs amicaux comme ça et tu prends que des tartes, faut prendre un peu confiance quand même. Faut arriver à gagner quelques matchs.
Tout à fait. Peut-être qu'ils vont tenir compte. Ouais. Alors, Villas-Boas, tout de suite, on n'a pas réagi aux récentes déclarations de l'entraîneur de l'OM sur la suite de sa carrière. Villas-Boas dit que sa carrière d'entraîneur porterait sur 15 ans. Alors ça, il l'avait déjà dit. Du coup, il dit, on peut imaginer une fin de carrière en 2024 pour moi. Je fais encore un an à Marseille. Ensuite, j'aimerais bien faire une expérience exotique au Brésil ou au Japon, dit-il. Et ensuite, ce sera peut-être le moment d'accomplir son rêve qui est de devenir président de Porto un jour. Alors, est-ce que cet état d'esprit, qui est quand même très rare chez les entraîneurs, on les voit souvent courir après les contrats, les clubs, les façons de rebondir, etc. Est-ce que cet état d'esprit atypique est rafraîchissant? Ce discours est-il rafraîchissant? 32-16 pour en débattre. Mohamed, tu restes avec nous, toi qui connais bien Villas-Boas. Dugas, c'est rafraîchissant d'entendre ça?
Moi, je trouve ça bien. Je trouve ça bien. De toute façon, je crois qu'il faut pas être. Il n'y a pas que le foot dans la vie, quoi. Il y a aussi plein d'autres choses à découvrir. Et moi, je trouve ça plutôt enrichissant. Je trouve ça plutôt bien. Après, quand tu peux te permettre de le faire et d'avoir de te fixer des objectifs ou des challenges dans ta vie qui sont différents de ce que tu as vécu. Moi, je trouve ça plutôt bien. C'est aussi un peu comme ça que je fonctionne. J'aime bien fonctionner par cycle et me mettre des objectifs différents, et puis après ça n'empêche pas de revenir si ça te plaît pas sur certaines choses ou sur certaines décisions. Donc moi je trouve que dans la vie, quand tu peux te le permettre, c'est bien de pas être prisonnier de quelque chose. Le foot, c'est ma vie, mais je pense que malgré tout il y a pas que le foot dans la vie. Il faut essayer d'aller goûter à autre chose, d'aller découvrir autre chose. Il y a des gens pour qui c'est pas possible et ils oseront jamais partir, ils pourront jamais partir parce que professionnellement c'est pas possible. Le foot te permet ce genre de choses parce que tu gagnes de l'argent, beaucoup d'argent assez rapidement, et il faut pas que ce soit toujours une espèce de course à toujours à vouloir en gagner plus. Moi j'ai toujours toujours été choqué, sincèrement, je te le dis, mon Jean-Louis, par des entraîneurs, par exemple, italiens, comme Capello, comme ouais. Lippi, qui sont des immenses entraîneurs, qui ont gagné des sommes astronomiques, et qu'aujourd'hui, je les vois partir en Chine. Alors, je me dis, bon, la Chine, pourquoi pas, tu tentes l'expérience, mais arrêtons de me faire croire que tu vas en Chine pour le football.
Pour développer le foot là-bas.
Voilà, ça, c'est des conneries absolues. Après, moi, j'ai toujours, ça me fait toujours un peu pitié, les gens qui veulent gagner plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Au bout d'un moment, tu vas finir quoi par le plus riche du cimetière. Je trouve ça un peu naze et sincèrement, je trouve ça limite ridicule. Au bout d'un moment, il y a des choses dans la vie, ta famille, tes petits enfants, voilà, d'essayer de te confronter à quelque chose que tu connais pas. Voilà, le monde t'offre tellement de possibilités quand t'as les moyens de le faire. Donc moi, j'aime ces gens qui pensent à autre chose que toujours la même chose. Les entraîneurs qui courent après leur contrat. Moi, j'aime pas cette façon de voir et de faire. Donc je trouve ça super qu'il y ait un homme dans le football qui pense différemment que de ce que proposent les autres.
Jérôme, t'es d'accord avec ça?
Pas surtout. Après que ça soit rafraîchissant, je sais pas. En tout cas, moi, je préfère des hommes passionnés. Alors, je dis pas qu'il est pas passionné, hein, André Villas-Boas, mais son discours, il pue pas l'amour du foot quand même, tu vois. Donc de dire bon bah oui. Ma carrière d'entraîneur c'était tant. Là, il me reste un an. Derrière, j'ai d'autres objectifs. Alors oui, qu'il ait un objectif à moyen ou long terme d'une ambition plutôt d'être président de Porto, ça se respecte. Maintenant, quand tu deviens président, c'est sûr que t'es plus au bord du terrain, c'est ton quotidien. Quand t'es entraîneur, tu deviens entraîneur. Moi, tous les entraîneurs que j'ai eus, et même encore ceux qu'on voit aujourd'hui, comme dit Dugas, qui passent d'un club à un autre, mais c'est des passionnés, c'est des gens qui se nourrissent du foot et qui donnent énormément au foot. Et heureusement qu'il y a des gens comme ça qui montrent la voie. Moi, je suis un peu indécis là-dessus sur ce discours. En tout cas, moi, je trouve ça, même pour Marseille, parce que c'est bien qu'il soit resté. Moi, je suis le premier à le défendre par rapport à ce qu'il a fait cette année à Marseille avec son groupe de joueurs. Mais les Marseillais, en fait, tu peux pas t'inscrire dans la durée avec un mec comme ça. C'est un one shot. Il va faire un an. J'espère du mieux possible. Et puis ils savent que l'année prochaine, de toute façon, il va se barrer. Donc, tu peux pas t'identifier à cet entraîneur-là quand t'es
un club comme l'Olympique de
Marseille. Ben ouais, mais moi, ça me dérange. Tout ça, ça me dérange, surtout quand t'as la chance, parce que c'est une chance pour ces mecs-là, d'entraîner les meilleures équipes
après les mecs, ils lâchent plus. Alors. Il y en a, ils sont tellement usés, Jérôme, ils lâchent plus l'affaire
non,
aussi.
Non, mais d'accord, non, mais je comprends.
Moment, je comprends. Je veux bien la patience, non, mais la patience, c'est dur d'être. Faut garder un peu de fraîcheur aussi.
Oui, non, mais là, je te rejoins, mais par moment sur moi c'est ce que je reproche, tu le connais mieux que moi, hein, Laurent Blanc, tu vois, c'est ce que je lui reproche, je me dis mais comment tu peux rester autant d'années après le Paris Saint-Germain sans contrat. Il a eu des propositions, alors peut-être qu'il en a pas senti certaines
parce qu'il fait pas sa vie selon le foot.
Alors non, mais c'est un choix, ça se respecte encore une fois, mais moi je vois pas le foot et je vois pas le métier d'entraîneur comme ça. En fait, moi je pense que les entraîneurs et encore plus que les joueurs, c'est à eux de montrer la voie, c'est à eux de montrer encore plus que les présidents, montrer la passion qu'ils ont pour le football. Et à travers ces discours-là, j'ai pas l'impression que ça soit ce que tu remettes en avant. Voilà, c'est tout. C'est mon avis. Après, l'autre se respecte.
Jérôme, sauf si tu le dis dès le départ. Et la chance, en tout cas, ou la qualité de Villas-Boas, c'est qu'il a tout de suite dit aux supporters marseillais. Moi, je me souviens l'avoir rencontré pour l'émission Comme Jamais. Il avait dit tout de suite, je resterai 2 ans maximum et ensuite je partirai parce que je rêve de Porto. Donc au moins les supporters le savent directement et c'est pas n'importe qui.
Il l'a fait pas à l'envers.
Et surtout c'est un entraîneur qui a de la fraîcheur. Et le dernier élément du gars, c'est que Villas-Boas, il sait qu'il a touché beaucoup d'argent. Il le dit, il est honnête, il est parti en Chine pour l'argent. Il le reconnaît. Il dit qu'il a la fierté d'être resté l'entraîneur le plus cher au monde quand il est parti de Porto à Chelsea avec une clause à 15 millions et qu'il a juste envie de profiter de la vie désormais, de refaire le Dakar, de découvrir le Brésil ou le Japon. Et à un moment, le foot pour lui, c'est pas ça. Je vais pas dire aujourd'hui c'est sa priorité, mais dans quelques années, il m'avait dit, moi c'est mes enfants, c'est de profiter de certains moments et de ne plus être sur le bord du terrain.
Oui,
chaque
il veut vivre quand même.
Voilà. Tu le vois sur certains entraîneurs qui disent, moi j'attends un projet, et puis à l'arrivée les projets ils vont là où c'est le mieux, oui. Où ça, voilà, parce qu'ils s'ennuient, parce qu'ils ont que ça dans leur vie, que le foot. Au bout d'un moment, c'est bon. Je trouve que Villas-Boas, pour le coup, il a le mérite d'être honnête. Ça lui donne une certaine fraîcheur aussi. aussi dans ses analyses, dans ses discours, dans ses conférences de presse. On voit qu'il n'est pas en train de ménager Pierre, Paul, Jacques pour essayer de retrouver un club derrière. Excusez-moi, je préfère le discours de Villas-Boas, c'est pour ça qu'il est peut-être beaucoup plus clair et que ses joueurs apprécient, que celui de Rudy Garcia qui est capable de retourner sa veste. Non mais voilà aussi, l'OM, après Lyon, après voilà, il ne sait même plus s'il confond Lyon et l'OM dans ses... Voilà, au bout d'un moment, je préfère un entraîneur comme ça.
On va prendre l'avis de Vincent qui nous rejoint au 32-16. Salut Vincent, bienvenue dans Team Dégâts.
Merci beaucoup, salut tout le monde.
Salut Vincent.
Moi, je suis assez d'accord avec la vision de Villas-Boas. Comme vous le disiez avant, je suis plus pour un entraîneur comme ça qui va dire j'aimerais bien faire ça, et puis finir ici, plutôt que, comme le disait Tuka, un Rudy Garcia qui va à gauche, à droite, et il se perd, il ne sait même plus ce qu'il dit, il sait même plus ce qu'il va. Et c'est surtout que, en plus, il y a beaucoup d'entraîneurs, je pense à des entraîneurs qui sont âgés maintenant, je pense à Ranieri ou des choses comme ça, qui s'entêtent parfois à mettre un style de jeu, à imposer leurs pattes dans des clubs qui n'accepteront jamais ça, et ça peut aussi leur porter préjudice. Autant lui, il gère sa façon d'entraîner, il a dit sur 15 ans, il va le faire sur 15 ans, et après peut-être que le football aura encore changé, peut-être que les nouveaux joueurs auront mis un nouveau style de jeu, et au moins lui, il aura fait son truc, et ces 15 années, il aura été, entre guillemets, bon, il aura fait des bonnes choses, et il ne se prendra pas la tête par la suite.
Et puis sincèrement, un entraîneur, est-ce qu'il est capable d'évoluer? La question, elle est peut-être là aussi, dans sa façon d'entraîner. Un entraîneur, quand je vois aujourd'hui Capello ou Lippi en Chine, ils ont 72, 73 ans, mais il ne faut pas me faire croire qu'ils ont évolué avec le football. Et les entraîneurs, souvent, ils ont une façon de voir leur foot, leur organisation, le caractère des joueurs aussi a beaucoup évolué, le football a aussi beaucoup changé. Je ne suis pas persuadé que passer 30, 40 ans dans le football, au bout d'un moment, t'es toujours aussi bon, t'es toujours aussi pertinent, percutant, le discours fonctionne toujours avec ces joueurs-là. Au bout d'un moment, il faut laisser la place aux autres. Quoi.
Non, mais Duga, là, tu prends l'extrême.
C'est bon, allez, rideau. Allez.
Non, mais tu prends l'extrême. C'est vrai qu'eux ont un certain âge aujourd'hui, ils continuent d'entraîner, ils ont fait un choix financier. Ok, là, mais ça, je peux comprendre là-dessus. Maintenant, après, il y a aussi le côté de ces mecs-là, même s'ils sont aujourd'hui très fatigués, ils te mettent quand même en avant l'amour qu'ils ont pour ce football, du moins. Pour eux, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est leur vie. Le foot, c'est leur vie. Mais ça se respecte aussi.
Oui, il en faut aussi.
Il ajoute, Jérôme, il ajoute les actes à la parole, parce que Villas-Boas, il aurait pu accepter une offre de Newcastle cet été avec un énorme salaire pour partir en Angleterre, revenir en Première Ligue. Il a dit non, la Première Ligue. Et d'ailleurs, il l'a dit.
On le sent libre, Villas-Boas.
Ouais, non, mais il dit la Première Ligue, ça m'a déçu. Et il a même dit ça m'a saoulé. Voilà, le niveau de jeu, c'est trop compliqué. Ça fait que s'il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas forcément de jeu. J'ai plus envie de ça. Et le dernier élément, il adore Porto, il adore sa ville, il est fou amoureux de son pays, fou amoureux de sa ville. C'est un vrai, un vrai supporter du club.
Comme Jérôme avec son chien, quoi, qu'on entend.
Ouais, ou avec le PSG. Voilà.
Oui, il les aime les deux pareil, c'est sûr.
Mais non, parce qu'en fait, il a entendu Porto et tout de suite il aboie. Je sais pas pourquoi.
Je croyais qu'il avait entendu Mohamed et qu'il avait aboyé pour ça. Ça m'étonnerait quand même.
Non, pas du tout.
Merci Mohamed. Ça veut dire quoi, ça? C'était pour rapport au début d'émission. Merci Vincent également d'être venu au 32-16. À bientôt. Salut Vincent. Dans un instant, Paul Bernardoni, notre invité. Et puis il y a encore d'autres infos à commenter. Une info RMC Sport sur Corentin Tolisso et Lyon. Ils se sont tous exprimés à Lyon. On a parlé de Jean-Michel Aulas à l'instant. Juninho aussi a mis un coup de pression à ses joueurs. On y revient dans un instant. À tout de suite dans Team Dugas.
RMC, 18h-20h.
Team Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez les amis, 18h33, Team Dugas continue avec Jean-Louis Tour, avec Jérôme Rotten et Mohamed Bouafsi.
Alors on a remercié Mohamed.
Ah, il est parti, Mohamed ?
Oui, bien sûr. Okay. On va accueillir Paul Bernardoni dans une seconde, notre invité. Puis il y aura le journal moyen à 18h45 avec Adrien Aiguin. Salut Adrien.
Salut les copains. Jean-Michel Larquet, notre Jean-Michel Larquet, se lance encore dans une nouvelle carrière, footballeur, consultant. Il devient chanteur. Jean-Michel, Jean-Michel Larquet se lance de la chanson.
Ah non, il a pas fait ça. Il a fait ça. Pas dans le truc de dans le coup à Saint-Étienne.
Alors, ça ressemble plutôt à du slam chez Jean-Michel. C'est un peu grand corps malade, tu vois.
Gênant.
Bon, je vais vous y faire écouter. Vous allez juger de tout ça. Voilà. Bon,
très bien.
Il est moins bon que Jérôme. Jérôme chante très bien. On l'a entendu sur du Bruel. Jérôme, c'est
catastrophe.
Jérôme, c'est la balade sur Bruel.
Jean-Michel, c'est un peu plus compliqué.
Très bien. À tout à l'heure, Adrien, pour vérifier tout ça. Notre invité est là, Jérôme Dugas. C'est Paul Bernardoni, le nouveau gardien d'Angers désormais. Salut, Paul.
Bonsoir, Paul.
Bonsoir. Bien, Paul.
Bienvenue, merci beaucoup d'être dans Team.
On évacue la blague sur l'âge tout de suite, du gars.
Ouais, bah oui. Dis-moi, c'est quoi ton véritable âge, Paul? Arrête, déconne pas. Dans Team Duga, on n'a pas le droit de mentir.
Allez, on va dire 33, mais bon.
Ah, voilà, enfin, on a la vérité. Non, alors, mais c'est vrai que t'as dû te faire chambrer quand t'étais jeune avec ça, non?
Mais disons, c'est plus. C'est tombé assez rapidement, mais on va dire, jeune, ça allait encore et c'est. À Bordeaux, c'est arrivé à Bordeaux, où je l'ai très vite perdu.
Mais à quel âge t'avais plus de cheveux?
C'est tombé entre 18 et 20. C'est très très vite tombé. Mais bon, c'est comme ça, hein.
Ah bah oui, et ton papa, c'est pareil? Ta famille, c'est pareil? Ou c'est...
On est pas très chevelu dans ma famille.
Ah ouais. Et puis à 18-20 ans, t'as pas le salaire pour les implants encore? Enfin, je sais pas.
Oh non, tu es très sincèrement.
Pas ton truc, quoi.
Pas trop.
Bon, ok, très bien.
Et puis bon, le passage à Bordeaux, ça a pas dû aider non plus, vu comment ça s'est passé. Ça a pas dû.
Ah, tu les perds, les cheveux à Bordeaux, clair. C'est ça.
C'est la conclusion que je me suis fait, en fait.
Quel enfoiré, ce Willy. Quel enfoiré, ce Willy, alors, c'est fou.
Willy Sagnon. Non, alors, effectivement, il y a eu le passage à Bordeaux compliqué. Derrière, tu as été prêté donc à Clermont, puis deux saisons à Nîmes, où évidemment on t'a suivi, où tu t'es installé en Ligue 1. Et là donc, tu signes à Angers. Pourquoi ne pas être retourné à Bordeaux et tenter ta chance pour t'imposer là-bas?
Bah, tout simplement parce que j'ai pas eu l'opportunité déjà pour commencer. Et en deux, parce que moi je cherchais vraiment un poste de numéro un, on me fasse confiance, et Angers est arrivé avec tous ces éléments, et Bordeaux pouvait pas me les donner, donc voilà pourquoi. Et puis je pense aussi que, on va dire que ça a arrangé tout le monde, enfin moi ça m'a arrangé parce que je voulais continuer à jouer, continuer à progresser, et Bordeaux je pense avait besoin aussi de me vendre.
Oui, donc, c'est 7,5 millions ton transfert quand même. Oui,
à l'arrivée c'est pas un bon coup, parce que je crois que Bordeaux t'avais acheté quoi, 3 millions et demi?
3 millions, ils m'avaient acheté.
Donc c'est une bonne opération pour les Girondins qui ont besoin d'argent. Tu as hésité à rester à Nîmes, ton premier choix était de rester à Nîmes ou t'étais ouvert à tout?
Non, j'étais très sincèrement, j'étais ouvert. Moi, je voulais. Je pense que arriver vers janvier, février, avant le Covid, je commençais à me poser la question, à me dire est-ce que une fois que la saison sera terminée, bien sûr, j'espérais qu'on se maintienne. Est-ce que la boucle serait pas bouclée? Mais disons que est-ce que j'avais pas fait ce que j'avais à faire à Nîmes, et pourquoi pas tenter ailleurs aussi? Et donc quand j'ai eu des contacts quand même assez tôt avec Angers, et on va dire que c'est là où mon choix s'est quand même porté, parce que le discours était identique de tout le monde, donc c'est ce qui m'a vraiment plu.
Alors, en partant dans ton message de départ sur les réseaux sociaux, tu as dit merci au staff et merci à Pierrot Labatte qui m'a beaucoup aidé dans ma progression. Oui. Alors c'est ton point commun avec Duga, tu peux nous raconter un peu, c'est le formateur historique des Girondins, Pierrot Labatte.
Moi je l'ai eu hier en plus au téléphone, Pierrot, il m'a parlé de Duga, il m'en parlait souvent. Pour me dire, il me parlait de la vélocité de Duga. Il disait, tout le monde dit qu'il n'est pas travailleur, mais moi je dis qu'il est travailleur. Voilà.
Ouais, il parlait pas sur le foot, lui, ouais.
Excuse-moi,
Pierrot, il s'occupait des techniciens, des joueurs de champ. Ouais. Qu'est-ce qui t'a apporté, justement, toi, en tant que gardien?
Donc arrivé à Bordeaux, je me suis, parce que bon, ok, ça s'était pas bien passé quand j'avais joué, mais je m'étais aussi, je me suis remis en question et je me suis dit bon voilà, maintenant t'es plus à 3, t'es plus dans ton confort, il faut aussi que tu commences à travailler vraiment sur tes points faibles, et mon jeu au pied est mon point faible et un de mes points faibles. D'accord. Du coup, j'avais demandé à travailler en plus, et on m'avait aiguillé sur Pierrot et on m'avait dit tu vas voir, et c'est vrai que, enfin pour moi c'est très sincèrement, il m'a ouvert l'esprit sur beaucoup de choses, sur les petits appuis juste avant. Enfin voilà, c'est sur sa façon de penser. Et puis on faisait ça deux fois par semaine, du coup, quand j'étais à Bordeaux. Et c'est comme ça qu'est née cette relation. Et puis c'est quelqu'un de très attachant, très humain. Et puis c'est surtout pour moi, ça fait partie des... C'est un génie, hein. Enfin, faut être honnête. C'est quelqu'un qui a une perception du foot qui est... Enfin moi, j'ai de suite accroché. Et donc voilà pourquoi, comment est née notre relation, et puis on est toujours en contact.
Et du gars, complète peut-être aussi, puisque toi t'as eu des séances particulières qu'avec lui quand t'as commencé, c'est ça?
Je suis pas le seul, il y a eu Lisa.
Non mais qu'est-ce qu'il a de plus en fait? Pourquoi il marque autant les joueurs qu'il entraîne? du gars.
Parce qu'il individualise beaucoup le travail et il individualise le travail technique. C'est-à-dire que normalement, le travail technique, tu te dis, bon, les joueurs, t'es joueur de foot professionnel, t'as plus besoin de travailler ta technique. Ce qui est faux, archi faux. T'avais un joueur, par exemple, comme Dennis Bergkamp, qu'on en a tous adoré, qui faisait ses gammes, 20 minutes avant de sortir, avant l'entraînement, il sortait tout seul, il allait taper contre des poteaux. Et puis voilà. Et puis après, c'est les appuis, c'est la surface de pied, c'est comment faire une tête, la tête reste un geste technique avec la potence. Voilà, c'est des répétitions, centaines, des milliers de répétitions pour maîtriser le geste. Et c'est une façon de travailler sur les appuis, sur la technique, sur le passement de jambes, sur les feintes, sur les dribbles. Voilà, c'est individualiser le travail technique. Donc
je voulais juste renseigner Jérôme sur ce dossier-là. Est-ce que toi, t'étais adepte aussi des gammes comme ça? Est-ce que tu devais répéter absolument tes centres à l'entraînement pour te sentir bien?
Alors c'est pas forcément, excuse-moi, des centres, c'est plus travail technique de contrôle de balle. Tu as répété 50 fois d'affilée le ballon qui arrive.
Je dis ça pour Jérôme parce que c'était son point fort, c'est pour ça.
D'accord.
Mais je vois. Jérôme.
Ouais. Allô.
Oui. Bon, Jérôme, il n'y a rien écouté, j'ai l'impression. T'étais là?
Non, mais parce que ça clignotait sur mon. Mon Scoopy. Mais oui, les gammes, en fait, t'es obligé de les répéter. Ce que je veux te dire, moi, je me suis battu tout au long de ma carrière aussi. T'as un point fort, il faut aussi répéter le geste, ton point fort, pas forcément tes faiblesses. Il faut le faire aussi. Et en effet, c'est bien de tomber sur une ou deux personnes d'un staff qui te permet de répéter ça. Mmh. Et il faut les écouter. Et ça se perd. Ça se perd vraiment.
C'est chiant, c'est chiant à faire, Jean-Louis. Hein. Ouais, tu répètes des gestes que normalement tu es censé maîtriser et que tu maîtrises globalement. Mais là c'est amener quelque chose de différent. C'est-à-dire que sur un contrôle de balle, on a toujours l'impression que sur un dribble, ce qui est important, c'est de réussir le dribble. Non, ce qui est important quand tu réussis un dribble, c'est d'accélérer après le dribble. Et ça, une fois que tes pieds ils ont touché le sol, il y a un certain appui à avoir pour gagner en vélocité, notamment des joueurs qui ont des gabarits plutôt importants. La surface de pied, surface de pied tu utilises pour frapper. Tu peux frapper de l'intérieur du pied, tu peux frapper du coup du pied, tu peux frapper de l'extérieur du pied. Voilà, c'est tout un tas de gestes techniques et tu rentres dans la technicité pure du geste et comment l'améliorer. Donc c'est une vision du foot qui est totalement différente et c'est pas normal que les joueurs ne soient pas capables, que dans les clubs il n'y ait pas non plus.
Ça partout pour tout le monde quoi.
Bien sûr.
Alors
bien sûr.
C'était très intéressant. On va revenir à Paul, évidemment notre invité Paul Bernardoni. Est-ce que le climat à Bordeaux également, tout ce qui se passe avec les affaires, toutes les tensions dont on parle au sein du club, a aussi refroidi tes attentes?
Honnêtement, non, parce que moi, mine de rien, ça fait 3 ans que je suis prêté, donc je suis quand même assez loin de tout ça. Moi, j'apprends dans la presse ce qui se passe. Je suis pas vraiment. Moi, je suis à fond dans le club où je suis, tout en étant prêté. Mais c'est pas que ça m'a refroidi, mais comme je dis, c'est de toute façon, j'avais bien compris que dans tous les cas, moi, je repartais pas numéro un. Puis moi, je voulais continuer à jouer. Le club, c'est pour ça que moi, je suis aussi content que Bordeaux l'a très vite compris aussi que. En prêtant pendant 3 ans et puis là en transférant, c'est qu'ils savent que moi je veux jouer, que je veux continuer à évoluer. Et donc voilà, moi c'était surtout ça qui a fait que mon choix était de m'en aller.
Tu as discuté à Angers justement. Angers, c'est pas simple non plus. Il y a plus Piqueux, c'est compliqué pour le président. Avec qui tu as discuté pour être rassuré, pour être choisi? Comment ça s'est passé les contacts?
J'ai eu le président. Le premier, c'est le président qui m'a appelé. C'est le président en rond parce que j'étais la priorité du coach et de Arnaud Lucas, l'entraîneur des gardiens. Donc après, j'ai eu le coach très longuement au téléphone. J'ai eu le coach des gardiens, j'ai aussi vu hier. Et j'ai eu aussi Sabercier, le nouveau directeur sportif. D'accord. Donc c'était une demande de ma part de vouloir d'avoir tout le monde au téléphone pour voir si c'était le même discours, parce que de rien, c'est quand même important. Discours était le même, donc du coup ça m'a vraiment motivé.
Bon, très bien Paul, merci beaucoup.
Bonne chance.
Tu vas t'organiser pour suivre le Tour de France, même au mois de septembre, même en pleine saison? On rappelle que t'es fan de vélo.
On est obligé, mais c'est comme ça. Et mais ça c'est sûr et certain. J'aimerais bien même aller voir une étape, mais on verra en fonction des possibilités, mais c'est sûr et certain, je vais le suivre.
Bon, bah parfait. Tu pourras écouter RMC, on transmettra toutes les étapes comme on fait évidemment tous les ans. Merci Paul.
Merci Paul, à bientôt.
Bon courage. À bientôt. Paul Bernardoni, donc le nouveau gardien d'Angers. Hein, on sait que Dugas, tu as souvent parlé cette saison des gardiens d'Angers, que ce soit Butel ou.
Ça a été compliqué.
Ou le remplaçant dont j'ai oublié le nom. Oh, mais voilà.
Ouais, il leur fallait un gardien, effectivement. Et c'est très bien que Paul y signe. Ouais, c'est super.
On revient dans un instant avec le journal moyen, Adrien Aigouin, et donc Captain Larquet qui chante. À tout de suite.
RMC, 18h20h,
Tim
Dugas,
Jean-Louis
Tour,
Christophe Dugarry. Allez les amis, 18h49, Tim Dugas continue avec Jérôme Rotten et Jean-Louis Tour. C'est le moment du blind test, n'importe quoi, du journal moyen.
Exactement.
Ouais. Et à partir de 19h, nous allons revenir sur la carrière d'un immense joueur, c'est Roberto Baggio.
Exactement, le journal moyen, Adrien, on y va.
C'est peut-être un mini blind test, journal moyen d'ailleurs. À la une du journal moyen de Tim Dugas, aujourd'hui un Niçois d'RMC nous offre un joli lapsus ce matin. Le supporter numéro 1 de l'OGC Nice, Jean-Michel Larquet, se lance dans la chanson. C'est une information étonnante, mais pourquoi pas.
Il est jamais trop tard.
Ouais. Et puis, petite question pour Jean-Louis, je sais que tu adores ça, si on a le temps.
Ouais, je suis trop fort.
10 juin. Le 10 juin, c'est une date assez importante pour le foot français. Assez importante. Vous écoutez RMC, c'est le 335e journal moyen de l'histoire de Tim Dugas.
En direct de la rédaction d'RMC Sport.
C'est le journal moyen de Tim Dugas.
Adrien Aigouin.
J'ai un magnifique lapsus pour commencer, s'il vous plaît. L'auteur est un passionné de foot, grand supporter de l'OGC Nice. Il travaille à RMC depuis 1953. Alain Marchal. Ah, oui, Alain Marchal.
Toi, c'est sûr.
Le grand Alain Marchal, il remercie une auditrice qui vient de gagner un cadeau dans les grandes gueules. Alain Marchal.
Et à bientôt sur RMC dans les GG. Saluez votre compagnon pour nous. Et vous pourrez gagner avec Brunet et Neumann tout à l'heure entre midi et deux en direct sur RMC. Quel challenger pour 2022.
T'as vraiment dit ça? T'as dit en direct.
Oui, tu as dit en durex, Alain Marchal. Je ne sais pas à quoi pense mon petit Alain Marchal quand il fait son émission Les Grandes Gueules, mais il est coquinou quand même, Alain.
Ah oui, il pense à se protéger, c'est très bien.
Ce qui est très bon, écoutez la suite.
Il est beau gosse en même temps.
Ouais, alors il a de la mauvaise foi. À la Jérôme Rotten. Au début, il n'assume pas du tout, en fait. Alain Marchal, il n'a pas dit durex pour lui.
Tout à l'heure, entre midi et deux, en durex sur RMC. Quel challengeur pour 2022.
T'as vraiment dit ça?
J'ai pas dit en durex.
On l'a tous entendu.
C'est pas vrai.
Sans transition.
On peut s'arrêter un instant sur ce lapsus. Lapsus sur durex.
Écoutez son explication.
C'est les précautions actuelles, je pense.
Ouais, c'est ça. C'est le tout sanitaire qui commence à me peser. À tout de suite. Avec les GG.
C'est le tout sanitaire qui me commence à me peser. C'est la vie d'Alain Marchal et on l'embrasse.
C'est parti des gestes barrières.
Supporter de l'OGC Nice. C'est le geste barrière par excellence, oui. Jean-Louis. On embrasse Alain, et puis bientôt, objectif Ligue des Champions pour le LC Nice, Alain Marchal. Sans transition, en durex, dans le journal moyen donc, direction Saint-Etienne. Et Jérôme, ça ne t'a pas échappé, mon petit Jérôme. Tu as vu ça, Dugas, je ne sais pas si tu as vu ça.
Non.
Initiative du groupe de musique corse, groupe mythique. Imouvrini, Jean-François Bernardini, le leader du groupe, a écrit une chanson pour rendre hommage à tous ceux qui luttent contre la Covid-19. Il est proche d'un Stéphanois, monsieur Bernardini, qui s'appelle Bernard Champion, qui est aujourd'hui le responsable des stages d'été à l'AS Saint-Etienne. Ils se sont mobilisés, ils ont mobilisé 7 personnalités stéphanoises qui chantent dans ce clip. Le clip s'appelle « Chanson d'après ». Les deux premiers que l'on va entendre, c'est le président des Verts, Roland Romeillet, c'est lui qui chante en premier. Et puis attention, il sera suivi après un peu plus tard par Jean-Michel Larquet. Attention, Roland Romeillet, la début de la chanson. Roland Romeillet, le vrai Roland Romeillet.
Il a du gaz,
ouais,
dit.
Écoutez.
Aux énergies fossiles.
On a du gaz.
Non, c'est vrai.
C'est pas mal. Il y a du gaz quand il interview.
C'est pas mal. La suite, je dis c'est pas mal parce que la suite, c'est Jean-Michel Larquet.
Tu l'entends comme moi. De la détresse et Marie la forêt en chantant la tendresse.
Eh oui, Marie la forêt,
c'est pas mal.
C'est pas mal. Je rappelle que c'est pour la bonne cause, donc vous pouvez vous moquer, mais en entendant, ils se sont mobilisés. Jean-Michel, voilà.
T'es pas obligé de chanter pour te mobiliser quand même.
C'est un joli geste. Le refrain de la chanson, s'il vous plaît.
Avec l'oseille qu'il a, l'arqué, il peut pas payer là.
Donc ça c'est le refrain que vous entendez. Et puis il y a un autre, il y a un ancien joueur de foot aussi qui fait partie du staff de Saint-Etienne aujourd'hui qui participe. Ancien joueur de Bastia, Julien Sablé, qui chante même en Corse.
Ma chi ben tu sera, chi gemba i gibesi,
de quel monde d'avant. Pas mal. Julien Sablé appliqué, j'ai envie de dire, au micro.
Ah ouais.
Pas mal.
T'as pas joué avec lui, Jérôme?
Non. À Bastia, là, vous étiez pas ensemble?
Non.
Non, il a joué avec moi, mais il m'a regardé, quoi.
Bon, bravo en tout cas les Stéphanois, bravo Imouri, bravo ouais, Jean-Michel.
Ouais, ouais, ouais,
c'est sympa,
bien.
C'est pour la bonne cause.
Bravo.
Bah oui. Oui.
Bah oui, mais fais un chèque, Jean-Michel. Et écoute-nous. Fais un chèque. Ne sois pas ridicule comme ça.
Vendredi dans Rotten Régal, on le passera, Jean-Michel, puis il jugera sa prestation.
Ah non, interdit. Alors là, je peux vous dire, on met pas ça, mais ça va.
Sans transition.
Et vous dites que c'est bien en plus.
Non, question pour.
Génial.
Moi, j'adore.
Moi aussi.
Question pour Jingle. La question pour
oui.
Jingle s'effondrer.
Ah oui.
Que s'est-il passé, les amis, le 10 juin? Dans le
de
foot français, A.
98, c'est le début de la Coupe du Monde.
Pas très longtemps. 10 juin, 98, ouais, c'était le. Non, c'était le 12 juin d'ailleurs, 98. Le 10 juin,
non,
très
le
10, simple.
Le match d'ouverture, c'est le 10 juin.
10 juin 2016, l'Euro 2016, match d'ouverture, vers oui. 22h50, souvenez-vous, match d'ouverture, France-Roumanie, 88e minute.
Paillettes.
Un partout, les bleus ne sont pas très bons, ça sent mauvais. Jérôme Rotten s'apprête à défoncer Didier Deschamps dans l'after par la suite.
Jamais.
Mais 87e, N'Golo Kanté a le ballon.
Avec le ballon pour Kanté, Kanté qui la met sur Payet, on s'approche. Payet la frappe. Oh, qu'il est bon. Oh, qu'il est bon ce but. Dimitri Payet, c'est lui l'équipe de France et qui va permettre.
Magnifique but du gauche de Dimitri Payet en dehors de la surface. La lucarne quand même, ouais. Un des plus beaux buts de la carrière de Payet pendant un Euro. Rendons à Payet ce qui appartient à Payet, victoire de Buzyn. Les Français iront en finale cette année-là.
Il nous manquait
Jeannot.
Merci
Adrien. Pourquoi il veut nous manquer Jeannot?
Il est là Jeannot.
Mais il n'arrête pas.
Il est là.
Non, il n'arrête pas. Ah, je crois qu'il arrêtait.
Il sera là pour la Ligue des Champions à bloc là au mois d'août.
Bah, Jean-Louis Castu me disait que.
Non.
Il est indéboulonnable Jeannot. Et on se régale de l'entendre. C'est pas ça que je te disais.
Ah d'accord, bon ça va.
Je te parlais du gars. Bon, merci Adrien, à demain pour le journal moyen. Jérôme, merci. Bonne soirée. On te retrouve dans l'after à 22h et demain dans Team Dugas. Dans un instant, la carrière de Roberto Baggio. Est-ce un talent gâché? Peut-on parler comme ça de cet immense joueur italien? 32-16, à tout de suite.
RMC, 18h-20h, Team Dugas.